Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sigel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à
Juillet. Ça va, mec?
Oui.
Un peu monde sont là?
Ah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Mondzone!
Ouais!
Ils sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en onde?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des Enfants d'Europe 1. Bienvenue dans le studio Louis Merlin de la rue François 1er. Vous vous en êtes rendu compte au fil de ces dimanches, beaucoup de vedettes, de stars, d'humoristes, de célébrités, de journalistes réputés, d'éditorialistes redoutés ont fait leur classe à Europe 1, se sont croisés à Europe 1, ont marqué Europe 1, ont fait Europe 1, sa réputation, son image, sa couleur que personne jusqu'ici n'a jamais ternie. La femme que j'ai l'honneur et l'avantage, comme on dit dans le monde, de recevoir ce matin avec vous tous, fait partie de ces passionnés qui n'ont jamais oublié leur passage ici et ce club d'enfants que j'anime depuis un an est fier de pouvoir la compter dans ses rangs. J'ai pour habitude de masquer l'identité de mon invité jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'un extrait le dévoile, la dévoile, l'identifie. J'ai confié ce soin au très talentueux Philippe Aubert, qui un beau matin de septembre 94, dans l'émission assez justement baptisée « Mon œil », fera en ces termes le portrait de celle que nous accueillerons dans 2 minutes, très précisément.
Cette sur 7 et 1 septennat, la rentrée de l'émission, nouvelle formule des dimanches. Anne Sinclair, ce matin face à l'épreuve par 3, d'abord photo instantanée. Anne Sinclair, portrait, Philippe Aubert.
C'était il y a, disons, Anne, quelques années, là-bas au fond de la salle de rédaction, Yvan Levaille me présenta une jeune fille, une jeune femme dont le sourire et les yeux brillants d'intelligence sous leur prisme bleu bouleversèrent mon cœur de jeune homme. Anne, oui, c'était vous, vous en souvenez-vous? Je n'ai cessé depuis de côtoyer, de guetter sans jamais voir sceller, je l'espère, la première journaliste de France. Mais Anne, mes amoureux transis ont une chance avec vous, c'est de vous regarder le dimanche à la télé, c'est comme une récompense, 7 sur 7. Le jour va tomber sur un dimanche de rentrée et une lumière s'allume dans la télé, vous apparaissez, et ma tante Geneviève, qui a toujours un téléviseur en noir et blanc, m'appelle pour me demander de quelle couleur était le tailleur d'Anne Sinclair. Longtemps on se gaussa de vos pulls en mohair que vous abandonnâtes récemment, peut-être un signe de mûrissement, si je puis me permettre ce mot, alors que vous n'avez encore que 42 beaux enfants, rassurez-vous Anne, on a le même âge. Puis-je vous demander ce que vos pulls sont devenus sans fétichisme aucun, pourriez-vous m'en donner un? Anne, j'ai repeint mon plafond du bleu de vos yeux, teinte difficile à trouver dans le commerce, j'ai dû faire des mélanges moi-même, et comme ça, je me réveille en rêvant encore que je plonge dans la piscine de vos pupilles. Souvent, je me demande, sachant qui vous êtes, les études que vous avez faites, les convictions dans votre tête, ce que à TF1 vous faites. Quand je regarde le profil de la une et que je superpose le vôtre, Anne, ça ne colle vraiment pas, c'est sans doute pourquoi régulièrement Paris qui bruisse parle de vous, enfin le Paris du Triangle d'Or, Alma, Étoile, Edgar, et vous voit déjà sur la 2. Pour moi, ça ne changerait rien, j'ai les deux chaînes à la maison, mais c'est pour vous annoncer au journal de 20h et je frémis me donner ma Sinclair quotidienne. Là, j'apprends par les journaux que 7 sur 7 continue un jour sur 7 et je devrais m'en contenter. Et puis ce matin, comme une récompense après tant d'années de travail, sur le même lieu de notre brève et première rencontre, je vous retrouve et que mon cœur battit, cœur jusque-là battu, quand de loin Anne, belle Anne, sœur Anne, je vous ai vu venir.
Bonjour Anne Sinclair.
Bonjour Marc.
C'est sympa.
Ah oui, je m'en souviens très bien, mais quel talent il a de plume d'écriture, ouais. D'humour, oui, oui.
Ouais, ouais. La jeune femme au fond de la rédaction.
Oui, très au fond même, parce que dans votre présentation, quand vous dites les gens qui ont fait Europe 1, moi j'ai rien fait du tout, j'ai rêvé d'Europe 1, je rêvais après Europe 1, j'avais rêvé d'entrer à Europe 1, et puis j'y suis entrée par la toute petite porte, j'y suis restée pas très longtemps, mais Voilà, c'est une vraiment à l'origine de beaucoup de choses.
Alors on a beaucoup parlé de vos yeux, on va parler de votre regard, celui que vous portez sur Europe 1, Europe numéro 1 à cette époque-là. Vous rêvez d'y entrer, pourquoi ?
Parce que dès l'âge de 10 ans, j'avais 10 ans en 58, ça ne nous rajeunit pas.
Et c'est le début de la 5e République.
Voilà, et mes parents, à la maison, on écoutait Europe, parce qu'on y parlait de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, dans le générique, il y a un son, je crois, ça doit être de Besançon.
C'est Julien Besançon.
Voilà, et donc... Pour moi, c'était la découverte de ce que c'était ce métier de journaliste. Et à 10 ans, j'ai décidé, en écoutant Europe 1, que je serais journaliste. Peut-être d'ailleurs, l'idée m'était venue de faire plutôt du reportage, plutôt de l'explication sur le terrain. La seule chose qui m'importait, et que je trouvais absolument formidable dans ce métier, c'était de dire, voilà comment est le monde, et moi j'essaie de vous expliquer un peu comment va le monde. Et ça, je trouvais au fond cette dimension presque pédagogique du métier, c'était ça qui me fascinait. Et puis l'autre, c'est aussi dans le générique, c'était SLC, Salut les copains.
C'est pas un hasard.
D'accord. Et donc c'était vraiment, quand j'avais 14 ans, c'était tous les jours l'écoute en revenant du lycée. Donc pour moi, c'est mon univers, Europe. Et donc après, je n'avais qu'une seule envie, après mes études, c'était de dire... Comment je peux entrer? Je suis entré en portant les cafés.
Mais la radio, c'est pas seulement le goût d'écrire, c'est aussi, ou le goût de rendre compte, c'est aussi le goût de parler.
Oui. C'est surtout, vous l'avez rappelé, Philippe Aubert aussi, que j'ai fait longtemps une émission de télé assez connue, qui s'appelait 7 sur 7, mais j'ai toujours eu l'envie, la nostalgie, le goût de la radio. Parce que c'est quelque chose de très proche, de très intime, de très vrai. À la télévision, Dieu sait qu'elle m'a gâtée et que j'y ai trouvé, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est quand même beaucoup plus d'artifice, de mise en scène, de maquillage, de lumière... À la radio, on fait comme on vient de faire ce matin, quoi. On entre, on pousse la porte, on s'assied, on parle. Ouais. Et on a l'impression qu'avec l'auditeur, il y a cette proximité qu'avec le téléspectateur, on n'a pas toujours. Donc, oui, la télévision, c'était une grande partie de ma vie et de ma carrière, mais j'adore la radio. D'ailleurs, j'y travaille toujours sur une radio concurrente
France Inter. Je vais trahir quelques secrets de fabrique pour les auditeurs. À ma demande, vous m'avez écrit quelques phrases inspirées par vos souvenirs pour préparer cette émission. Oui. J'ai été frappé par une expression, vous avez parlé d'histoire d'amour avec Europe 1.
C'est vrai, c'était parce que je rêvais d'y pénétrer. Au début,
mais elle avait quoi de différent des autres pour qu'elle suscite autant d'attirance?
Eh bien, parce qu'on y parlait d'information d'une autre façon, parce que toutes les voix étaient familières, parce que j'aimais Jean Gorini, qui à l'époque était directeur de l'information, et Maurice Siegel, et qui prenait l'antenne, et qui nous expliquait le monde, et que je connaissais chacun des journalistes, parce que c'est vrai que la partie journalistique, à part SLC, m'intéressait sans doute plus parce que je voulais en faire mon métier, et que donc j'aurais été capable de les reconnaître en un flash.
SLC, c'est quelque chose qui manifestement est une référence. Ça fait deux fois que vous en parlez. Vous avez envie d'entendre un petit peu d'SLC? Allez, on y va.
SLC, salut les copains.
Cette semaine, cette chanson est classée numéro 1.
Kennedy aujourd'hui revenait, aussi Monsieur Gandhi soudain ressuscité. Ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde il suffit de chanter da 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 da.
Si vous voulez, pour commencer cette séquence, je vous propose les États-Unis avec les mamas et les papas dans Monday, Monday.
Daniel Philippe Aki introduisant Monday. Et je vous ai entendu me dire j'aime ça.
Oui, c'est pas jeune, hein. C'est
Louis
pas jeune.
Gico de l'époque. Oh oui, mais enfin, ce qui est jeune est appelé à redevenir ancien.
Mais Johnny, c'était bien. Enfin, surtout le Johnny de ce moment-là.
Ouais. Vos goûts musicaux, hein, à ce moment-là, il y a Johnny, il y a...
Oui, il y a Johnny, il y a Sylvie, il y a tout le monde, il y a les Beatles, il y a... Enfin bon, c'est une banalité affreuse, mais c'était les numéros moins de Salut les copains.
Vous auriez pu ne pas être journaliste et devenir animatrice d'une émission...
Non, j'aurais jamais su, j'en avais pas le goût, j'étais comme toutes les ados et j'aimais danser sur les tubes. Mais non, je voulais être journaliste et encore une fois, vraiment très tôt, avec cette envie formidable de transmettre et d'expliquer. Je ne sais pas d'ailleurs si cette vision pédagogique est exacte, parce que je ne suis pas absolument sûre que ce soit ça le fondement du métier, peut-être ce que je regrette. Mais en tout cas, c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Donc, tout mon objectif, à l'époque, il n'y avait pas forcément besoin d'études dans les écoles de journalisme. On pouvait apprendre sur le tas, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et puis, il n'y avait pas de problème d'emploi, pas de problème de chômage. Enfin, c'était l'époque bénie des années 70. Et donc, moi, j'ai simplement essayé par tous les moyens de faire un stage pour porter les cafés, pour faire le ménage, pour faire n'importe quoi, pour approcher
mes idoles. Et puis vous avez fini par faire de l'antenne.
Voilà, j'ai fini par mettre le pied dans la porte, oui.
Et on va en parler dans quelques instants. On observe une pause, on se retrouve avec Anne Sinclair.
Marc Tronceau.
Les enfants d'Europe 1 réunis autour d'Anne Sinclair aujourd'hui. Vous avez parlé d'un certain nombre de personnes déjà. Vous avez parlé de Jean Gorigny tout à l'heure. Réputation de macho, c'était un petit peu plus compliqué, non?
Oui, il l'a cultivé. D'abord, il faut dire à ceux qui le connaissent pas, c'était un grand directeur de l'information. Et je crois que dans toute ma carrière professionnelle, c'est probablement celui qui, pour moi, m'a le plus épaté. Parce que il était non seulement il décidait des sujets des journaux, mais il corrigeait les flashs. Je l'ai vu corriger les flashs d'information avec un stylo pour que le journaliste s'exprime en français, que ce soit juste, que ce soit exactement l'info, etc. Et alors, il cultivait un machisme exagéré, mais qui était dans les mœurs. Il disait que les femmes étaient juste bonnes pour s'occuper des sujets de société, de santé, d'amaigrissement,
d'éducation,
etc. Et que sinon, elles avaient qu'à se coller un agra, ces lourdes machines sur le dos. Qui pesait, bon, c'est vrai, je sais pas, 15 kilos.
Enfin, oui, facile. Oui.
Voilà. Et donc, qui était très lourde, et donc c'était évidemment la façon de brimer. Et puis, moi, la première fois où il m'a reçue comme stagiaire, il m'a dit, vous êtes une femme, vous avez des diplômes, vous avez jamais travaillé, vous ferez jamais rien ici. Je dis bon, puis je me suis pas démontée, je lui ai dit que j'adorais cette maison, que j'intervenais sur l'antenne souvent le soir quand il y avait un invité politique et que j'étais encore en terminale pour l'interroger à la radio. Et donc il a dit, ah ben vous méritez quand même qu'on s'intéresse, mais surtout, pensez bien, jamais vous ne mettrez les pieds dans ma rédaction avec mes journalistes. J'ai dit d'accord.
Jean Gorigny vous répond, c'était le titre d'une émission. Jean Gorigny vous répond en compagnie, ce jour-là, d'Albert Ducrot, premier consultant scientifique de l'histoire de la radio. C'était sur Europe 1. Extrait.
Et bien maintenant, alors avec Albert Ducrot, nous allons entreprendre, et avec chacun de ceux d'entre vous qui ont des sujets à nous proposer, la conversation sur ce thème, l'espace. Nous vous écoutons.
Allô ?
Oui ?
Monsieur Albert Ducrot, ne peut-on pas craindre que les hommes ou des engins qui iront éventuellement sur notre satellite, sur la Lune, et qui en reviendront peut-être, ne ramèneront pas sur la Terre des germes de maladies inconnues contre lesquelles il nous serait impossible de lutter ?
Bon, alors voyez-vous, voici ce que je vous répondrai. C'est que si on prend le problème sous son aspect le plus général, il est certain que l'homme va se trouver dans l'espace dans des conditions entièrement nouvelles.
Oui.
Cela est déjà arrivé, et cela a déjà donné lieu à des études extrêmement intéressantes qui se sont traduites par des résultats positifs pour la biologie. Par exemple, dans l'espace, du fait que le sang n'a plus de poids, il coule d'une manière tout à fait différente de son régime terrestre, et dans ces conditions, on a pu étudier pour la première fois la fonction de transfert du cœur. C'est un grand progrès en cardiologie.
Oui, mais la crainte que des germes ne soient ramenés sur la Terre.
Est-ce qu'il y a des germes sur la Lune?
D'abord, il faudrait prouver qu'il y a des germes sur la Lune, et ensuite.
Il ne veut pas le prouver. Il demande simplement s'il y a un risque.
Oui. À l'heure actuelle, je vous dis, n'est-ce pas, eh bien, tant que des hommes ne seront pas revenus de la Lune, on ne peut pas répondre à cette question. Autant que l'on sache, il n'y a pas de vie sur la Lune. Et de toute manière, lorsque des hommes reviennent, ils sont mis en observation pendant un certain temps. Par conséquent, n'est-ce pas, il faudrait imaginer, n'est-ce pas, des maladies tout à fait inconnues qui échapperaient aux moyens de détection actuels.
C'est arrivé. Je vais me permettre de faire un
petit... Ah ben, ce n'est pas impossible.
Vous savez que j'ai comparé l'autre samedi les voyageurs du cosmos aux voyageurs qui, au XIVe siècle, sont partis à la découverte d'un monde nouveau. Ils ont trouvé un monde nouveau. Ils en ont même ramené des maladies inconnues qui ont maintenant une fâcheuse réputation d'ailleurs. Eh ben oui, ben mon Dieu, on a payé de cette fâcheuse maladie qui a une fâcheuse réputation, la découverte d'un continent. Et on a fait ce qu'il fallait pour se battre contre cette maladie. On y est plus ou moins arrivé. Et je crois qu'en fin de compte, le bénéfice quand même d'avoir étendu le rayonnement de l'humanité à un continent nouveau valait bien le risque qu'on a couru. Il est possible qu'on ramène de la Lune une maladie qui aura peut-être moins mauvaise réputation que celle que Christophe Colomb a ramenée d'Amérique.
Ah non, ça paraît difficile.
Je vous répondrai ceci, monsieur, n'est-ce pas? Le fait que les hommes ramènent des germes de maladies inconnues des autres mondes, c'est une supposition. Le fait qu'actuellement la biologie progresse de façon extraordinaire grâce à la conquête de l'espace, c'est une certitude.
Oui, évidemment.
Voilà, monsieur, sur ce sujet. Bonsoir.
Voilà, pour ceux qui s'interrogeraient, c'est la syphilis que Christophe Colomb nous a ramené du Nouveau Monde. 1966, Albert Ducrot, Jean Gorigny, dialogue avec les auditeurs, comme quoi l'interactivité, on l'a quand même pas découverte hier, mais
oui,
avant-hier.
Oui, mais c'était vraiment ici qu'elle a été pionnière. Enfin, je crois que ça n'existait pas sur une autre radio. Non. Donc, on pouvait interroger les journalistes. Alors là, il y avait la voix de Gorigny, il y avait la voix d'Albert Ducrot, qui était extraordinaire de passion, de flamme. Moi, je me souviens aussi très bien de l'alunissage de Armstrong sur la Lune, donc c'était en juillet 69, si je me souviens bien. Eh bien, on avait mis l'image de la télé, mais on écoutait Ducrot en même temps à la radio, parce que c'était impensable de manquer l'atterrissage sur la Lune, si j'ose dire, sans Albert Ducrot.
On a d'ailleurs fait une pièce d'un des génériques de l'émission de cette exclamation d'Albert Ducrot au moment effectivement où Armstrong pose le pied sur la Lune. On va se retrouver dans quelques instants. Du reste, il y a des gens qui font encore ça avec Dominique Bressot quand il y a un Grand Prix de Formule 1. Hein, je le signale au passage pour Dominique. Salut Dominique. On se retrouve dans quelques instants avec Anne Sinclair. Les enfants d'Europe 1 avec comme invité Anne Sinclair. Anne, vous êtes à Sciences Po quand vous passez le seuil de la station, non?
J'ai juste fini Sciences Po.
Juste fini.
J'avais fait Sciences Po et droit et je cherchais après à travailler, mais d'abord à faire un stage.
Ce goût pour la politique que vous ne cesserez d'affirmer, vous le tenez de quoi, de qui? Est-ce que Europe 1 est aussi,
oui,
en dehors du fait que c'est une radio un petit peu pas comme les autres, c'est aussi une radio politique?
Probablement. C'est en effet, là, je vous disais, la guerre d'Algérie, ma découverte de ce que c'était que la 5e République, le général de Gaulle. Donc ma découverte de ce qu'était l'actualité. Et après, le goût de la politique, allez savoir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Europe 1 est à l'origine de beaucoup de choses et beaucoup d'envie. L'engagement politique aussi. J'ai 20 ans en 68. Je vais travailler avec Pierre Mendès-France.
Et Europe 1 et Radio Barricade à cette époque-là,
et
en tous les cas selon le ministère de l'Intérieur.
Et Radio Barricade, et là au moins on a des reportages en direct, et d'ailleurs la fameuse manifestation du 13 mai, est-ce que c'était le 13 mai, où on écoute le discours du général de Gaulle, et ben dans la foule, on a tous le transistor, et qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Europe 1.
J'ai envie de vous faire écouter un extrait d'émission, vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
Question, réponse. Question.
Étienne Moujotte.
Réponse.
Guy Mollet.
Guy Mollet, un signataire du programme commun de la gauche, peut-il sans se contredire voter contre le mandat présidentiel à 5 ans?
Oui.
Êtes-vous personnellement partisan de maintenir l'élection du président de la République au suffrage universel?
Oui.
Êtes-vous favorable au régime présidentiel?
Oui et non.
Vous voulez réduire les pouvoirs du président de la République? Vous étiez pourtant partisan en 58 de l'article 16.
Oui.
Vous avez été un des parrains de la Constitution de 58. Le général de Gaulle, selon vous, aurait-il accepté le mandat présidentiel à 5 ans?
Non.
Une pause et le président Guy Mollet commentera ses réponses. Guy Mollet, vous publiez chez Albin Michel un livre qui s'appelle 15 ans après la Constitution de 1958. Nous allons y revenir. Je voudrais qu'on vienne tout de suite à l'actualité avec la première question que je vous posais. Est-ce qu'un signataire du programme commun de la gauche peut, sans se contredire, voter contre le mandat à 5 ans alors que c'est inscrit dans le programme commun ?
L'explication est simple, je la crois facile. Je me suis d'ailleurs procuré un exemplaire de ce programme commun, est facile de s'y reporter. Il dit, la toute première phrase, dès sa toute première phrase en ce qui concerne la question de la révision de la Constitution, que l'essentiel, ce n'est pas le mode d'élection ou la durée du mandat du président de la République, mais, je cite, « la volonté de mettre fin au pouvoir que celui-ci s'est arbitrairement attribué ». Alors viennent ensuite un certain nombre de propositions.
Ces interviews politiques du soir, Guy Mollet par exemple, on vient de l'entendre, et les questions étaient préparées par Anne Sinclair. Peut-être pas pour Guy Mollet, mais pour pas mal d'autres.
Guy Mollet, ça me fiche un coup de vieux terrible. Mais quand Étienne, j'avais dû préparer en effet cette émission, je m'en souviens plus, mais quand Étienne Moujotte est arrivé pour présenter à la fois le journal de 19h et faire l'émission qui suivait, qui s'appelait Questions-Réponses, Jean Gorini m'a dit, si j'engageais une stagiaire pour travailler avec Moujotte, vous me feriez un foin pas possible, du genre, les femmes sont toutes hystériques, elles me font des problèmes. Donc, vous allez tout faire pour le même salaire et vous allez être mon assistante et celle de d'Étienne Moujotte. Et donc j'ai fait mes armes et c'est comme ça que j'ai gagné ma carte de presse. C'est parce que je faisais un boulot de journaliste derrière la main, c'est-à-dire que je m'occupais à la fois des problèmes techniques, parce qu'à l'époque souvent l'interlocuteur intervenait par téléphone et que c'était nos vieux téléphones et il fallait démonter le bas du téléphone et leur envoyer une pastille pour que la pastille permette une meilleure communication, vous voyez.
C'était ça.
Exactement. Et en même temps, je préparais pour Étienne les questions, c'est-à-dire je lisais les livres, j'en tirais après ce que j'ai fait toute ma vie finalement, c'est des questions à des hommes politiques, mais c'est pas moi qui les posais, c'est Moujotte.
Un mot d'Étienne qui était dans cette émission il y a pas si longtemps.
C'est lui qui
nous a parlé de vous d'ailleurs.
C'est un grand professionnel, c'était un grand journaliste, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a su faire de TF1 un succès. Nous avons divergé sur des points, pas mal, mais je me souviens bien de lui quand j'étais son assistante et j'ai eu du plaisir à travailler avec lui.
Les personnages de la scène politique commencent à vous fasciner à partir de quand ou à partir de qui ?
Ça me fascinait, ça m'a jamais tellement fascinée. Peut-être parce que assez petite, j'ai plongé dans ce bain-là.
Comme l'entomologiste peut être fasciné par une fourmi.
Voilà, c'est ça. Mais c'était, oui, de la curiosité, de l'intérêt. Après, j'ai été vaccinée contre le pouvoir et contre ces illusions pour l'avoir fait tant d'années. C'est vrai que, au fond, j'aimais l'idée que je me fais toujours de la politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que transformer le monde, enfin, c'est agir sur le monde.
Vous vous souvenez de l'interview que vous allez faire de François Mitterrand en février 75? Vous avez pris du grade d'ailleurs à ce moment-là.
J'ai le droit de porter le nagra, j'ai le droit de sortir, de faire quelques piges pour le journal d'André Arnault de 13h.
Et parmi ces piges, il y a l'interview d'un futur président.
Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'était après son échec de 74, donc on pensait qu'il était fini, à qui on a donné l'interview, c'est à la stagiaire qui n'avait jamais rien fait. Donc c'était déjà intéressant de savoir comment on considérait, mais ça a été tout le temps les perdants dans une rédaction. Donc on m'avait envoyé chez Mitterrand.
Il avait écrit
un de ses meilleurs livres qui s'appelle La paille et le grain. Et j'étais morte de terreur, morte de trac, extrêmement impressionnée. J'ai travaillé pendant 8 jours, jour et nuit, pour en tirer 4 questions qui devaient faire peut-être pas une trente, mais enfin 3-4.
Ça s'entend pas trop. Écoutez un extrait de l'émission.
Bon, La paille et le grain, ce n'est pas qu'un essai littéraire. Vous y parlez politique aussi et vous dressez un portrait des 3 présidents de la République que vous avez eu l'occasion de combattre, d'affronter. Et au fond, on a le sentiment qu'avec le général de Gaulle, vous aviez un certain nombre de souvenirs de combats communs, qu'avec Georges Pompidou, vous respectiez les vertus de l'homme, sinon toujours la politique, et que Giscard, au fond, c'est l'adversaire qu'on peut regarder d'un œil froid, et que le combat est plus simple.
De Gaulle, je l'ai connu, je le raconte, en 1943, c'est-à-dire pendant la guerre. J'ai été son collaborateur, peu de temps, mais suffisamment pour qu'il se crée quelques liens. Au moment de la fin de la guerre et de la libération. Ensuite, je me suis opposé à lui politiquement. Et l'une des thèses auxquelles je tiens le plus, c'est marquer à quel point la résistance extérieure qu'il animait, celle de Londres ou celle d'Alger, a, sous sa direction, éliminé la résistance intérieure, infiniment plus populaire, qui pratiquement n'a pas beaucoup pesé sur la vie historique de la France au cours de ces 25 dernières années. J'ai donc beaucoup de reproches à lui faire, mais je n'ai jamais nié son importance et sa capacité. De Pompidou, je pense qu'il avait une très forte carrure, et que c'est un malentendu de l'histoire et de sa vie personnelle, je veux dire son état de santé, qui ont fait que, qu'il n'a pas compté. Giscard d'Estaing, c'est différent, je le connais aussi depuis longtemps, pas personnellement, mais nous avons cohabité au sein des assemblées parlementaires depuis la fin de la 4e République, où il était lui-même déjà. J'ai été avant lui un très jeune ministre, puisque j'avais 30 ans lorsque je suis entré au gouvernement, et j'ai donc un peu pu éprouver ce qu'il éprouve aujourd'hui dans les différents postes qu'il a remplis, où ses qualités sont remarquables. Il y a bien longtemps que je sais que c'est à droite l'homme qui a le plus de valeur. Bon, alors je reconnais ses qualités, je le regarde avec intérêt. Vous dites avec un œil froid, bon, je n'ai pas de raison de déborder d'amour.
Il n'y a pas de sentiment. Je veux dire, il n'y a pas du tout de sentiment dans votre jugement.
C'est pas ça. Parce que je pense que c'est une très belle mécanique. Et que jusqu'ici, ses actes politiques ont été ce que pourrait produire une très belle mécanique.
Vous êtes un peu fasciné par son style.
Il a un style intéressant, très dangereux. Car au fond, c'est un style assez impersonnel. C'est le prototype du langage technocratique de ces 10 dernières années. Ça fait moderne, ça fera vieillot très vite. Je pense que d'autres styles qui ont été considérés par lui comme un peu plus passéistes seront beaucoup plus modernes dans 4 ou 5 ans.
Impressionné avant, mais pendant, on n'a pas l'impression.
Bon, ça, je donne le champ, je m'étais shooté au café, donc pour avoir l'air décontracté. Mais ce qui me frappe, c'est que je me souviens avoir pleuré de déception quand j'ai rapporté le Nagra et la bande ici à Europe, parce que j'étais allé l'interviewer chez lui, rue de Bièvre, et il y avait des travaux dans la rue, et il y avait des marteaux-piqueurs qui nous ont pollués tout au long de l'émission. Et quand j'ai réécouté la bande, elle était presque inaudible, et je suis absolument fascinée de voir que je ne les entends plus. Et je me souviens que André Arnaud, devant mon désarroi et mon chagrin, a dit « Bon, allez, la petite, on va en passer quand même, on va en passer un peu, on va en passer 3 minutes, alors que ça durait 10 minutes. » Et d'ailleurs, j'ai toujours le livre de Mitterrand, « La paille et le grain », qui m'a été dédicacé pour Anne Sinclair, au son des marteaux-piqueurs. Et donc, je n'entends plus là sur cette bande.
Ah bah, est-ce que c'est les marteaux-piqueurs.
Et c'est le miracle du numérique qui a su nettoyer la bande.
C'est possible avec la technique, on fait de grandes choses. Il y a un homme politique ou une femme politique qui vous a vraiment fichu le trac ou pas?
Oui, Mitterrand, par exemple, à 7 sur 7, certainement. D'une manière générale, me donner le trac, les interviews qui étaient toujours en direct le dimanche soir, qui avaient un enjeu, c'est-à-dire soit le Premier ministre en pleine crise, soit Jacques Delors annonçant son retrait de la candidature,
soit Mitterrand,
notamment pendant l'affaire Pella, où là, c'était tellement tendu. D'abord, l'émission était allée jusqu'à 8h30, donc on avait fait 1h30 d'émission. Justement, Étienne Moujotte, qui était là, me faisait signe continue, on passe le journal de 20h, ce qui était à TF1, était une révolution, partout d'ailleurs, mais qui était extrêmement intense, parce que j'avais décidé de faire mon métier jusqu'au bout et que ça ne plaisait pas au président.
Et une interview peut vous avoir fait changer d'avis sur un ou une politique?
Pas changer d'avis,
mais
oui, la mieux connaître, surtout des étrangers. Je pense à Hillary Clinton, je pense à Gorbatchev qui m'avait vraiment époustouflé, je pense à Helmut Kohl qui m'a fasciné. Oui. Sur les Français, je les connaissais bien, j'ai pas beaucoup changé d'avis.
Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez, et notamment sur cette antenne, été très éclectique dans vos interviews. Il y a une émission qui vous en a peut-être donné le goût, l'occasion, tout peut arriver. Émission d'un trio de choc, un trio stupéfiant, comme l'indiquent les trois lettres LSD, L comme Lescure, S comme Sinclair, D comme des jeunes. Dans cette émission, un confessionnal, comme à l'église, extrait septembre 75.
Depuis le 1er septembre, tout peut arriver sur Europe 1, du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h, avec Jean-Michel Desjeunes, Pierre Lescure et Anne Sinclair. C'est une nouvelle émission où l'information et les variétés sont étroitement mêlées. Chaque jour de la semaine, il y a à 18h15 un rendez-vous fixe, qui est une sorte de confessionnal.
Question Miel Fiel. Dame Sinclair. Question méchant, pointu ce soir.
Je vais commencer par une question, oui, pas très gentille. Peut-être le jour où vous sortez un nouveau film, vous vous choquez si je vous demande si vous n'auriez pas dû vous arrêter après Un homme et une femme, parce que finalement aucun de vos films n'a eu autant de succès, celui-là.
Vous êtes très mal informé.
Informez-moi.
L'aventure, c'est l'aventure, a fait beaucoup plus qu'un homme et une femme. Le voyou a fait plus qu'un homme et une femme. On l'a déjà deux qui ont fait.
Vous avez fait votre nom international sur Un homme et une femme.
Ah oui, d'accord. Non, mais vous voyez que j'ai bien fait de ne pas m'arrêter, parce que les deux autres ont quand même mieux marché. Enfin, ils ont été même mieux accueillis sur le plan de la critique, surtout à l'étranger et en particulier aux États-Unis.
On a dit de vos films qu'ils étaient des tranquillisants. Vous préférez, vous, apaiser ou déranger?
Écoutez, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends des cachets d'aspirine. Et si mes films peuvent...
être des cachets d'aspirine?
Pourquoi pas, je ne suis pas contre les cachets d'aspirine. Non, non, mais j'ai rien contre. Je veux dire, moi je veux bien que mes films soient des tranquillisants. Je préfère que ce soit des tranquillisants que des objets de torture, vous voyez. Moi, il y a plein de films qui me rendent très très malheureux, qui me font souffrir. Alors si au moins les miens ont la faculté de pouvoir calmer certains maux, je suis très content. Mais... ça veut pas... On a dit aussi d'Un homme et une femme que c'était un film financé par le général de Gaulle, vous voyez. Alors pourquoi pas un cachet d'aspirine?
En ce moment, vous pensez quoi?
En ce moment, je pense que le temps passe tranquillement, que tout va bien. Vous m'avez servi à boire et je réponds à une personne qui essaye de m'agresser, mais c'est bon.
Oh, je vous agresse pas du tout, ah j'essaie de m'informer. Je vous pose une dernière question qui m'intéresse là particulièrement. Ça vous intéresse le féminisme, vous?
Oui, d'abord parce que ça fait partie de ma vie d'une façon très importante. Et puis ensuite...
Les femmes ou le féminisme?
Je mélange les deux. Je ne fais pas de différence dans votre question.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, Liz Taylor ou Simone Veil?
C'est une très bonne question. Je vais vous dire, pour passer une nuit, voilà, et puis pour discuter pendant une soirée, voilà. Alors vous avez compris, non, mais je veux dire, c'est une question
qui...
Et peut-être, en plus, que je me trompe, parce que peut-être que Simone Veil a des possibilités.
Merci. Tout peut arriver, tout est arrivé manifestement. Vous êtes féministe, Anne Sinclair?
Oui, oui, bien oui. sûr. Mais à l'époque, c'était encore une question qui se posait ou qu'on posait. Aujourd'hui, elle n'est même pas politiquement correcte de la poser, puisque tout le monde prétend l'être.
C'était pas très politiquement correct, hein, vos questions.
Non, c'est vrai. Mais j'avais un peu oublié. Mais c'est pas très gentil, c'est vrai. Il a été sympa, le louche.
Oui. Non, mais j'ai eu l'occasion déjà de passer un extrait du confessionnal dans l'émission avec Étienne Moujotte. C'était avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Vous étiez aux limites de l'insolence. Hein,
je m'en souviens pas du tout.
Pas du tout.
Pas
vous
du
en avez reçu combien des gens comme ça dans ce confessionnal?
Ça a duré qu'un an l'émission, vous savez, donc c'est vrai qu'elle était quotidienne.
Mais elle est restée dans les annales.
Donc l'émission n'a pas duré beaucoup et Lescure, Sinclair et Desjeunes, Lescure est resté à Europe 1 et les deux autres ont dégagé. Jean-Michel Desjeunes est mort tragiquement et moi c'était à ce moment-là que je me suis dit que j'avais... Mais bon, on ne proposait rien à Europe, donc je suis partie tenter une aventure à la télévision dont je ne savais pas trop ce qu'elle donnerait, puis voilà.
Pourquoi on ne vous a rien proposé?
Ah ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, d'ailleurs, il aurait fallu le demander à Étienne Moujotte, mais il a pensé sans doute que, bon, je ne sais pas, qu'il n'y avait pas de place pour moi, ou alors que j'avais peut-être pas très envie de me couler dans le moule du reportage, encore une fois.
Vous avez eu un sentiment d'ingratitude?
Ah pas du tout, non pas du tout, j'étais trop novice, trop récente, j'ai trop appris, j'étais trop contente d'être ici, donc non je suis partie parce qu'il n'y avait pas de débouché, non pas du tout d'ingratitude, non.
Une pause et on se retrouve avec Anne Sinclair et les Enfants d'Europe.
Marc Trousseau.
Anne Sinclair est l'invitée des Enfants d'Europe 1. On a entendu il y a quelques instants un extrait de l'émission Tout peut arriver, Lescure, Sinclair, Desjeunes. Dans Tout peut arriver, il y a aussi des moments de gloire avec des gloires de l'antenne. Potcher, c'est un de vos préférés, non?
Oh, hein? J'adorais
chroniqueur judiciaire.
Il faisait vivre les procès, qui nous les racontait. C'était vraiment, ça c'était pas le fait divers, c'était vraiment l'histoire humaine. Non, génial.
Ça vous aurait pas tenté la chronique judiciaire?
Mais bon, justement, parce que Potcher étant le modèle, on ne pouvait pas égaler Potcher.
Décembre 75, Frédéric Potcher est en compagnie du trio LSD et il aime à l'évidence.
Frédéric Potcher, vous avez joué le malade imaginaire.
J'ai cherché la page, car j'ai joué le rôle de Thomas Diafoirus.
Moi, je voudrais bien entendre un peu Frédéric Potcher dans ce rôle.
Bon, écoutez, je ne sais pas ce que ça donnera.
Juste un petit passage.
Oui, je vais vous dire, le Thomas Diafoirus, c'est le fils du vieux médecin, cette espèce de solennel imbécile. Et le fils est un type insupportable, boutonneux, affreux, laid, qui est plein de prétentions. Et il vient offrir sa main, si j'ose dire, à la fille d'Argan qui s'appelle Angélique, qui est une ravissante petite jeune fille. Alors on lui dit, faites votre compliment, Thomas. Alors Thomas dit à Farusan, il dit, mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, ainsi mon cœur dort en avant. Dort en avant. Écoutez, c'est merveilleux, Molière. Ainsi mon cœur dort en avant. Tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique? Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende, ce verbe est extraordinaire, souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Et vous savez, attendez. Et la réplique suivante, il faut la donner quand même parce qu'elle est trop belle. Ouais. La réplique suivante, c'est la servante, Toinette, qui dit « Eh ben, voilà ce que c'est que d'étudier, on apprend à dire de belles choses. » Je trouve que c'est une admirable réplique.
Eh ben voilà, Frédéric Potcher, comédien, on avait peut-être un peu oublié. Entre-temps, vous manquez un peu de répétition aussi, mon cher maître.
Écoutez, j'ai oublié, moi, vous comprenez. Bon. Je ne suis plus jeune, hélas.
Où il se confirme que la chronique judiciaire et le théâtre, Anne, sont plus que voisins.
Ah, parce qu'il le faisait vivre d'une manière extraordinaire. Parce que généralement, quand il racontait un procès, il se mettait à la place de tous les acteurs, prenait la voix du président, prenait la voix du prévenu, prenait la voix des avocats. Et il était lui-même un formidable avocat de l'institution judiciaire démocratique et judiciaire.
Star de télé, passionné de radio, vous avez eu à un moment donné un choix à faire. Vous auriez un choix à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui donne le plus beau souvenir avec le recul?
Oh, je dois dire que 7 sur 7, c'est un très beau souvenir, ouais. Parce que ça a duré 13 ans, 13 années de dimanche après dimanche. C'était pas beaucoup de week-end, mais c'était très excitant. Et puis, c'était tous les gens qui comptaient, que ce soit Mitterrand ou Helmut Kohl, Sharon Stone ou Jacques Delors, Sarkozy ou qui d'autre.
Et en fait, Europe, ça a été votre centre de formation.
Voilà, et donc, c'est à Europe que j'ai appris, au fond, les bases du métier. C'est vrai que Sciences Po m'avait donné un peu le goût de l'analyse politique et le goût de connaître un peu ce que c'était à la fois les institutions, etc. Mais la pratique, c'est la formation, quoi. J'ai appris sur le tas et j'ai appris dans une entreprise.
Alors, je ne peux pas parler d'Europe 1 avec vous sans évoquer quelqu'un avec qui vous avez partagé un bout de vie. Autre vedette d'Europe 1, expliquez-vous.
Yvan Levaille avec Yves Montand. On devrait logiquement entendre, pardon, mais parce que c'est un disque qui est très ancien, mais qui fait aussi partie de l'actualité, et que vous allez tous reconnaître.
Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant.
Voilà, les présentations sont faites. Yves Montand, je l'ai dit, il a la première page d'un certain nombre de magazines couleurs. Il les fait tous. Il est aussi en vedette dans le numéro spécial de Libération. Et il est en vedette dans vos quotidiens régionaux et nationaux, avec des questions qui sont toujours les mêmes. Pour qui roule Montand? Où va Montand? Que veut Montand? Est-ce qu'il a envie de faire une carrière politique? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons répondre le plus vite possible. Alors, soyez clairs et profitons de cette 2000e et dernière émission d'Expliquez-vous pour qu'on ne vous repose plus jamais la question. Est-ce que vous allez être un jour candidat à la présidence de la République, à la députation, à un conseil municipal quelconque, figuré sur la liste européenne? Oui ou non?
Pour la 9e fois, non. C'est clair, non?
Continuons. Continuons. Une partie de ceux qui vous critiquent aujourd'hui disent, en gros, hein, je traduis, C'est la pensée politique française qui s'appauvrit. La preuve, c'est un chanteur et c'est un comédien qui vient donner des leçons de politique à la radio-télévision. Une autre partie de la critique vous dit, au fond, Yves Montand est anticommuniste, mais c'est facile d'être anticommuniste aujourd'hui. Presque tout le monde en France l'est. C'est vrai, ça. Et enfin, une autre partie de la critique ajoute et termine là-dessus en disant, Yves Montand est néo-réganien. Il est classique, il travaille pour Reagan, c'est facile aussi, c'est même très à la mode.
Mais sur certains points de politique étrangère, j'aurais été encore beaucoup plus loin que M. Reagan.
Au Liban ?
Au Liban et ailleurs.
Vous auriez cogné ?
Écoutez, essayez de savoir ce qu'on veut. Et quand je dis qu'il faut savoir ce qu'on veut, je veux dire par là qu'il y a des positions sur lesquelles il faut rester ferme. On ne recule pas. Ou alors il faut dire à chaque Français, à chaque Française, jusqu'où entendez-vous reculer ? Il ne s'agit pas de les faire la guerre.
Voilà, Yvan Levaille, face à Yves Montand, Yvan Levaille, à ce moment-là, c'est la revue de presse et... Expliquez-vous avec quelques questions incisives. J'ai envie de vous demander en toute indiscrétion, Anne. Je veux dire,
mais j'ai connu Yvan quel ici. Sentiment, j'ai connu Yvan ici. Ça faisait partie aussi des voix mythiques. Et puis quand j'ai été stagiaire ici à la rédaction, j'ai côtoyé le service politique où il y avait Yvan, où il y avait Carré Roux et où il y avait Robert Namias, aujourd'hui directeur de l'info de TF1. Et bon, avec Yvan, c'est une histoire évidemment privée. Je sais bien que la mode est de raconter l'histoire privée. Mais moi, je raconte pas. Mais en revanche, je me souviens très bien que le jour où j'ai eu ma carte de presse, je me suis précipitée dans le bureau d'Yvan en lui disant « Regarde, c'est formidable, j'ai ma carte de presse !» Et il m'a fait « Ah ouais, bon, et alors ?» Et donc, pour moi, c'était un événement considérable. Et lui trouvait, évidemment, lui pratiquait le journalisme depuis très longtemps avec succès et trouvait que c'était banalisant. Et puis, on s'est mariés. Je n'étais plus à Europe quand on s'est mariés.
Vous étiez pareil ou vous étiez différent et l'un influençait l'autre? Parce que, je veux dire, la manière d'interviewer, elle est quand même assez voisine. Hein.
Oui, j'ai jamais pensé à ça. Vous avez peut-être raison. Après tout, on a des teints, sûrement l'un sur l'autre. Et si quelqu'un a des teints, c'est lui sur moi, parce qu'il était expérimenté, moi pas. Peut-être ai-je pris avec lui... Enfin, j'ai toujours eu pas mal de goût pour l'insolence. Et peut-être qu'on s'était retrouvé là-dessus.
Revue de presse, interview à suivre. On espère inviter Yvan très vite. Cette émission, Anne, est bientôt terminée. Elle passe très vite. J'ai eu envie de vous faire un cadeau. Une interview que vous auriez sans doute adoré faire. Interview de la plus grande des divas, pour qui vous avez, m'a-t-on dit, une admiration sans borne.
Oui.
Extrait des archives d'Europe 1, 1963, Maria Callas, en toute simplicité.
Eh bien, je vais être obligé de vous présenter Madame Callas, mais je dois dire que ça me paraît un peu difficile.
J'ai peur que ça nous connaissons depuis beaucoup des années, non Michel, alors oui, ça serait, vient pas.
Ça serait un petit peu difficile, on entendrait Madame Callas, est-ce que tu penses que... ça ferait un mélange un peu bizarre, alors restons
simples. Alors allons-y. Simple.
Tout le monde a remarqué évidemment que la grande... particularité de l'art vocal de Maria Callas, c'est avant tout le phrasé.
Pour moi, je l'ai dit souvent et je le répète aussi maintenant, que la musique est le mode plus sublime de parler. Quand on parle, on phrase, on fait les phrases, on donne de couleur à cette phrase et encore plus dans la voix. Tu comprends alors qu'il faut surtout phraser.
Quand tu chantes des airs français, tu attaches un poids et une signification à toutes les paroles. Par exemple, dans l'air des lettres, quand tu dis « je suis seul, comme un linceul », ta voix prend une couleur d'une tristesse et d'une...
Moi, enfin... j'adore, Michel, toujours pénétrer dans le personnage et toujours respecter le compositeur qui a créé ça. Il savait ce qu'il faisait. Il ne mettait pas les mots sur la musique si facilement. Il a fait avec tout son cœur, avec toutes ses forces de penser et tout. Donc, nous, comme interprètes, nous devons faire au moins la moindre de fatigue de chercher dans ces génies, qui étaient ces hommes, chercher ce qu'ils voulaient.
Oui, mais ça suppose aussi d'avoir une technique vocale et une... au fond, d'être sans souci.
Oui, voilà, mais c'est pour ça que nous sommes toujours pleins de soucis.
C'est parce qu'il faut être sans souci.
Eh oui, mais... Si on connaît bien la voix, on est toujours en souci parce que la voix est un instrument humain et alors il souffre avec la moindre des choses.
Tu m'as dit que pour...
Pour rester là, va bien. Mandami Rosa lo stesso.
Si, tu vuoi che resti?
Vuoi resta allora.
Ici, nous sommes interrompus par la femme de chambre fidèle de Maria Callas, la célèbre Bruna, qui vient lui demander un détail concernant les bagages. Et nous, nous allons en profiter pour entendre l'admirable air Casta Diva du premier acte de la Norma de Bellini, dont nous venons de tant parler.
Callas. Ça se passe de commentaires. Il y a des moments où il faut demander un sentiment plus qu'une réaction, Anne Sinclair.
Oh bah, c'est une voix qui me... Oui, il me fait quelque chose. Vous disiez vous-même donner des frissons, c'est ça. Oui, ça donne des frissons. J'adore l'opéra et je reconnais Maria Callas au premier son qui sort de sa gorge. Et elle est éternelle.
J'ai dit aussi tout à l'heure que c'était, à mon sens, sans doute une interview que vous auriez aimé, adoré faire.
Oui, bien sûr. J'ai jamais rencontré. J'étais trop petite.
Il y en a d'autres, d'ailleurs.
Vous auriez aimé le général de Gaulle, oui, sûrement. Je ne sais pas comment j'aurais réussi à lui poser des questions, parce que Michel Droit... Il y avait eu quelques difficultés, mais peut-être j'aurais essayé de bousculer tout ça. Non, oui, ça m'aurait bien plu.
Il n'était peut-être pas assez à gauche.
Oh, bah, j'ai
pour poser des bonnes questions au général de Gaulle.
J'ai interviewé, je crois, tout le monde, toute la classe politique, sauf un.
Oui,
tout le monde est venu, tout le monde savait que j'étais de gauche, et je crois que tout le monde venait quand même dans mon émission, parce qu'on y reconnaissait pour un peu de professionnalisme quand même.
Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci Anne.
Merci Marc.
J'étais sincèrement heureux de passer cette heure avec vous. À nos auditeurs, je me dois de dire qu'à partir de dimanche prochain, ils auront droit, durant l'été, à des rediffusions que je choisis pour eux avec toute l'équipe des Enfants d'Europe 1. Faut bien souffler un tout petit peu. On se retrouve en septembre. Un remerciement spécial à ma collaboratrice Sandrine Prioul, au service de documentation d'Europe 1, ainsi qu'à notre réalisateur préféré, Serge Fontaine. On commence à réfléchir aux émissions de la saison prochaine, c'est promis. À très vite. Très belle été. Et comme je vous le dis toujours, une très belle radio.